version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Soyez donc les bienvenus dans cette nouvelle édition de Version originale. Racisme et culture, c'est le thème de notre émission à travers un livre qui nous invite à commencer à penser à la culture née de la race. Racisme et culture, c'est le titre du dernier livre de Michel Agier, Racisme et culture, exploration transnationale, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir Michel Agier.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Michel Agier. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, également directeur d'études à l'EHESS. Dans Racisme et culture, vous vous interrogez sur ce qui fait l'actualité du racisme. Vous examinez cette actualité raciale en observant des événements qui permettent de découvrir une pensée raciste qui souvent reste implicite. Ce livre porte témoignage du fait que des recherches vous ont permis de comprendre non seulement l'expérience du racisme, mais aussi les expériences culturelles qui prenaient forme dans différents contextes. Vous vous intéressez, Michel Agier, à la conscience de soi des personnes à la peau noire dans des actions de réponse au racisme. Ces actions, ce sont donc les performances rituelles ou théâtrales, artistiques en général, et dans la prise de parole poétique ou politique dans un espace public. Je résume, l'objet de votre questionnement et de vos enquêtes, c'est la transformation, la transfiguration de la race par la culture. Alors Michel Agier, vous ne parlez pas de race et culture, vous choisissez de parler de racisme et culture. Pour quelle raison ce choix ?
Bah, la raison, c'est une reprise, on va dire, et une reprise à la fois proche et critique. D'un livre, d'un texte de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui avait été sollicité à deux reprises, d'ailleurs en 1952 et en 1971, par l'UNESCO, pour dire quelque chose du point de vue de l'anthropologie sur les races. C'était les questions étaient les races devant la science, les races devant les scientifiques. Et donc Lévi-Strauss avait, dans un premier temps, dans son travail de 1952, avait un petit peu détourné la question en disant ben, les anthropologues, les ethnologues ne peuvent pas se prononcer sur la question de la race. On était dans les années 50. Hein. Et en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des différences culturelles et qu'il faut reconnaître l'égalité dans la diversité culturelle. Et le pire qui puisse advenir, c'est l'ethnocentrisme, et notamment l'ethnocentrisme des sociétés occidentales, qui considèrent que les autres cultures sont inférieures. Voilà. Et donc, il suggérait par analogie, si on veut, le débat à propos de la différence culturelle sur ce qu'on pouvait dire sur les races. Mais il ne prenait pas vraiment position sur cette question. Et puis la deuxième fois, c'est l'UNESCO toujours qui lui repose la question. Et là, on est dans les années 70. Et c'est intéressant, parce que les années 70, c'est déjà le moment où les scientifiques, les biologistes, les généticiens ont commencé à dire, et ça a été dit en 1981 dans un volume de la revue Genre Humain, qui disait la science devant le racisme. Et ces biologistes généticiens avaient dit « Nous n'avons rien à faire avec le concept de race pour rendre compte de l'existence humaine. Voilà. Il n'y a pas de classement de race possible dans la diversité génétique humaine. » Et ça, c'est quelque chose qui n'a fait que s'amplifier, si on peut dire, avec la multiplication des mouvements de population, des mélanges, la mixité, etc. Ce qui fait que, de moins en moins, il semble de plus en plus évident maintenant qu'il est de moins en moins possible de classer les gens par race, ou alors ça serait revenir à des choses anciennes. Et alors là, Lévi-Strauss, à ce moment-là, dans ce texte qui précisément s'appelait « Race et culture », a voulu rentrer encore dans cette discussion, mais à propos de la biologie. Il a essayé de faire quelque chose entre biologie et culture. Or, c'est tout à fait intéressant, et notamment quand il dit ce n'est pas la biologie qui détermine les différences culturelles, comme une façon de replacer, de reproblématiser la question. Alors, il disait, ce n'est pas les différentes biologies qui conditionnent les différences culturelles. En fait, c'est les différences de mode de vie, de culture, au sens là très large, anthropologique, de tous les modes de vie, qui font que progressivement, à cause de tel ou tel mode de vie, dans des contextes différents, les gens évoluent aussi sur le plan physique. Alors, c'est une très très longue histoire, c'est une hypothèse qui est largement vérifiée, mais qui aujourd'hui ne nous est pas immédiatement perceptible, c'est de la très longue histoire, on va dire. Et alors du coup, c'est intéressant, ce que je dis aussi dans l'ouvrage, ce serait Lévi-Strauss aurait été très intéressé avec les découvertes plus récentes maintenant sur les métissages entre Homo sapiens, que nous tenons comme notre ancêtre de pure origine, qui a été en fait métissé lui aussi, hybridé, si on peut dire, avec des Néandertals et d'autres. Et donc, en fait, tout ce qu'on considérait comme des troncs différents d'humanité se sont déjà mêlés dans ce qu'on a aujourd'hui comme patrimoine génétique. Donc voilà, cette discussion, elle est intéressante. Mmh. Il y a des généticiens, il y a des archéologues qui travaillent là-dessus, il y a tout ça. Mais ça ne disait rien. Et Lévi-Strauss le reconnaissait lui-même. Il arrivait au bout de son livre, et moi, je me suis attaché de manière assez... avec beaucoup d'émotion sur ces dernières pages, où il dit, tout ce que je vous dis là, finalement, ça sert à rien, puisqu'il y a plein de gens racistes et qui sont prêts à faire croire n'importe quoi pour empêcher le vivre ensemble, etc., etc. On a un peu tous les termes qu'on a eus depuis, de manière plus importante, à la fin de son essai. Et donc, ce que je dis, donc la question, ça n'est pas... race et culture, puisqu'on est d'accord que les races n'existent pas, mais je repars de ce qu'il disait, effectivement, il y a du racisme, et ce racisme produit ce que j'appelle la race du racisme, c'est-à-dire effectivement un mode de domination sociale et politique qui utilise les différences biologiques ou, d'une manière plus générale, les différences d'apparence. Voilà. Et voilà. Et après, c'est tout un jeu, finalement, qui se fait depuis longtemps autour de ce qu'on peut appeler la fiction de la race. La fiction de la race, parce qu'on est d'accord que les races n'existent pas. Mais dans la société, y a des racismes explicites ou implicites. Mais on sait bien qu'il y a des gens qui sont désignés par ce regard racialisant ou racisant, et ce sont les gens qu'on appelle racisés, et qui maintenant eux prennent la parole en disant nous sommes racisés, nous voulons aussi réagir dans ce sens-là. Et de ce point de vue-là, ils ont parfaitement raison. Enfin, effectivement, ils sont ils sont conformes à ce qui me semble être la réalité sociale contemporaine aujourd'hui.
Michel Agier, vous faites référence à Achille Bembé. Achille Bembé est professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. Il a écrit entre autres Critique de la raison nègre. Dans ce livre, Achille Bembé met en exergue les trois contextes de la fabrication historique et intellectuelle de la fiction de la race, comme vous dites justement, donc, qui a défini le sujet noir. Donc, l'esclavage transatlantique, la colonisation essentiellement en Afrique, et l'apartheid en Afrique du Sud. À cela, vous ajoutez un quatrième cadre, celui du contexte postcolonial des migrations afro-européennes depuis les indépendances des années 1960. Donc, c'est aujourd'hui, c'est un peu les migrations aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi vous ajoutez ce quatrième cadre à cette fiction.
On est dans la continuation de cette histoire. On est toujours, si on essaye Plus tard, des historiens nous replaceront dans l'histoire, mais on peut essayer aussi, des fois c'est le rôle des anthropologues d'essayer de le faire, de nous replacer nous-mêmes là, dans cette histoire. Et on voit bien, alors on pourra y revenir, mais on voit bien que la longue période coloniale, qui, à mon sens, n'a pas été, contrairement à ce que disent certains, simplement une parenthèse dans l'histoire du monde. C'était quelque chose de très profond et marquant, qui marque encore, puisque les formes de domination, et en particulier la racialisation des populations colonisées, est encore en œuvre, même si c'est d'une manière implicite ou, comme je l'appelle, dans une infra-pensée. Mmh. Ça n'est pas une pensée explicitée toujours, mais qui est toujours présente dans les mentalités. Alors pourquoi et comment on voit ça ? Eh bien, très largement, parce que l'Europe aujourd'hui a eu un lien avec l'Afrique à travers la Méditerranée, et on pourrait dire qu'il y a, comme Paul Gilroy a dit, qu'il y a une histoire d'un Atlantique noir, mais on peut dire qu'on est déjà dans l'histoire d'une Méditerranée noire, au sens évidemment sombre de toutes les populations qui meurent en Méditerranée, mais au sens aussi où c'est la trajectoire de très nombreux migrants venant d'Afrique qui se trouvent pris dans ce piège de la Méditerranée noire. Et ça forme un contexte aussi, et on le voit bien dans l'actualité là, de ces dernières années, en France ou en Europe, on voit bien que les polémiques à propos des migrations, ne tiennent pas réellement à la réalité des chiffres qui, notamment par exemple, on le voit très bien là, depuis ces dernières années, depuis 2015, le nombre de migrants, le nombre d'entrées, par exemple les entrées illégales en Europe, n'ont cessé de diminuer depuis 2015. Voilà. Et cependant, nos dirigeants, la plupart des dirigeants européens, ne cessent de dire qu'il y a de plus en plus d'entrées et de migrants illégaux, qu'il faut fermer les frontières, fermer les frontières, fermer les frontières. Et donc, moi, ce que je dis, c'est très simple. Ce ne sont pas n'importe quels migrants qui sont désignés. Mmh. Ce sont toujours des migrants qui viennent des pays du Sud. Ils viennent d'Afrique, ils viennent du Proche-Orient, ils viennent d'Asie du Sud-Est, ils viennent d'Asie centrale, c'est-à-dire de tous les pays dont l'Europe a été la métropole colonisatrice dans toute son histoire, ou impériale. Ce sont les empires, les colonies et les empires coloniaux de la France, de la Grande-Bretagne, mais aussi des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. Toute cette Europe a une histoire coloniale et on va dire, dans ce regard qu'elle porte aujourd'hui sur les mobilités humaines, lorsqu'il ne s'agit pas de gens qui viennent des pays du Nord, comme on dit, et qui viennent sans problème, que ce soit de Grande-Bretagne, d'États-Unis, d'Australie, etc., c'est-à-dire des Blancs, en dehors de clairement. Ça, on désigne toujours le migrant, entre guillemets, comme une menace, un danger, etc. Et donc, moi, je dis, dans tous ces cas-là, ça, c'est une parole qui est manifestement la marque d'une pensée postcoloniale. Ça me semble assez net, puisque ce sont les personnes qui sont visées.
Vous écoutez Allègre FM 93.1.
Michel Agier, donc je rappelle le titre de votre livre « Racisme et culture » paru aux éditions du Seuil, pour continuer donc sur ce registre-là. Donc, alors qu'est-ce que ça dit justement quand on est au cœur de cette actualité aujourd'hui que nous vivons, où effectivement à rebours des chiffres, on va dire, dans une démarche scientifique et rationnelle, on entend donc la parole qui se libère sur ces questions, comme si effectivement tous les problèmes venaient des personnes migrantes. Qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui, la société française aujourd'hui ?
Ben, je pense qu'il y a deux choses, justement, toujours en nous resituant dans cette histoire. Et de ce point de vue-là, la société française est très comparable, résonne énormément avec les situations ailleurs dans le monde, en Europe, mais aussi en Amérique latine, par exemple, ou aux États-Unis ou ailleurs. Il y a quelque chose qui est vrai en général et en France en particulier, c'est que les sociétés sont de plus en plus mêlées. C'est-à-dire que ce qu'on disait au début sur, les hybridations, la mixité,
les
mélanges,
les circulations.
Il y a de plus en plus de circulation dans le monde. Et comme il y a de plus en plus de circulation, eh bien, il y a de plus en plus de croisements culturels, mais aussi des croisements entre des hommes et des femmes qui font des enfants et qui en font d'autres et qui en font d'autres, etc. Et donc, les multiples combinaisons génétiques se multiplient de manière exponentielle, si on veut. Et donc, la diversité devient de plus en plus diversité. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'on vit dans des mondes mêlés. On vit de plus en plus dans des mondes mêlés. Sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, ça, c'est assez évident, et ça peut troubler des gens. C'est-à-dire que ça n'est pas toujours une épreuve agréable, facile, d'être confronté avec des gens qui parlent une langue différente, de devoir apprendre une nouvelle langue, et une deuxième en plus, etc. Mais c'est des enrichissements. Voilà, on va dire que ce sont des manières pour les cultures, de s'enrichir, de s'élargir, et pour les sociétés de la même façon. On peut dire que ce qui se passe en France comme ce qui se passe en Europe, avec ces mélanges de plus en plus importants qui, je le rappelle, viennent très largement des espaces anciennement colonisés. C'est une histoire qui continue, mais qui continue avec des phénomènes de mélange et de mixité. Mais parce que c'est cette histoire-là, justement, en même temps, ça n'est pas séparé des phénomènes de domination, d'exploitation, de légitimité pour ceux dont la catégorie, et en l'occurrence les Blancs, se considèrent naturellement dans la position dominante, d'exercer une domination sur d'autres, sur lesquels on considère qu'on a naturellement une supériorité. Et donc, ça crée à la fois... cette mixité, ces mélanges et à la fois ces conflits possibles qu'il peut y avoir dans la société et qui peuvent être évidemment mis à profit par certains groupes qui misent sur le repli et l'enfermement pour désigner des boucs émissaires. Et on voit bien que quand il s'agit de trouver des boucs émissaires pour n'importe quel problème, c'est très systématiquement les personnes racisées qui viennent de cette histoire-là qui sont visées.
Mais est-ce que vous avez... Enfin, moi, j'ai l'impression que ces dernières années, que nous avons franchi un cap. Qu'est-ce que j'entends par là ? Cette libération de la parole qui se fait de façon naturelle, cette espèce de renversement que nous voyons, ne serait-ce que sur un plan politique. Il y a donc un parti de gauche, d'extrême gauche, avec ses qualités et ses défauts, qui est considéré comme le parti diabolique. Et de plus en plus, on accepte le parti d'extrême droite, le RN. Ça rentre comme ça dans les habitudes de façon très, très, presque naturelle. Comment vous expliquez ce renversement ? Comme si on avait vraiment... Il y a une digue qui a sauté, que l'extrême droite maintenant est admise l'extrême gauche, c'est l'ennemi.
Il y a ce qu'on peut dire une résistance conservatrice sur les évolutions de la société, sur les l'évolution du monde. Et je pense que un tournant sûrement des années 90 et de la fin des années 90, où il a été question dans les mouvements politiques de chercher quelle serait une manière politique et égalitaire, juste d'appréhender la mondialisation, hein, ce qu'on appelait l'altermondialisation, a été un moment important. Il y a eu les forums mondiaux, etc. Mais de toute évidence, n'a pas réussi à imposer son récit, si on peut dire, de ce que serait une mondialisation bénéfique pour tous et qui aurait une vocation à l'égalité. Voilà. Donc, ce qui a plutôt prédominé, c'est la tendance à la séparation, à la domination de certains, à l'exclusion d'autres. Un accroissement, je pense, des conflits nord-sud, hein, mm-hmm. qui a remplacé le conflit est-ouest. Et là-dessus, je pense que l'argument politique de la lutte contre le terrorisme a recouvert, d'une certaine façon, tous ces procédés quoi, de stigmatisation de l'étranger, de stigmatisation du migrant, etc. Quoi.
Il y a, alors vous, là on parlait de la France en particulier, vos enquêtes de terrain vous ont amené à vivre plusieurs années au Togo, puis dans le sud du Cameroun, à Douala, également au Brésil. Et vous dites, Michel Agier, que c'est à Douala que vous avez découvert de la manière la plus frontale la violence des relations raciales. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, c'était une expérience à la fois immédiate et je dirais, réfléchie, hein, en retravaillant un petit peu. J'ai ressenti un certain malaise en étant à Douala qui tenait au fait... Donc j'étais dans les années 80, mais ça a un petit peu évolué, mais pas tant que ça, avec une très forte présence européenne, blanche, française en particulier, de gens qui avaient la main sur beaucoup de moyens économiques, entreprises, entreprises forestières, les grandes entreprises européennes qui avaient des filiales au Cameroun, les entreprises de pétrole, de forage de pétrole, etc. Donc ça faisait une présence européenne qui était assez importante, arrogante, riche, qui occupait un quartier qui était considéré comme le quartier européen et qui... historiquement, avait été le quartier occupé par les colons, donc à l'époque coloniale. Et dans cette ville, il y a évidemment des ségrégations, à la fois sur les questions de couleur, mais aussi sur les questions sociales. Et donc, il y a un quartier comme ça, le quartier New Bell, que tous les gens qui connaissent l'Afrique connaissent, parce que c'est un très grand quartier populaire où il y a une animation, une vie sociale très riche et culturelle, etc. Mais où j'ai voulu aller pour chercher quelqu'un qui devait m'amener dans un village, parce que je m'intéressais aux liens des gens avec leur communauté villageoise. Et je voulais voir comment est-ce que ça fonctionnait en termes de solidarité dans les villes, quoi. Et donc, je me suis trouvé là dans ce quartier. Et là, effectivement, je me suis fait... Ça a été la première fois. Alors pour moi, bon, ça n'a pas été une agression. C'était une interpellation. Une interpellation qui disait « Qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Pourquoi tu viens nous voir ? Pourquoi tu viens ici, quoi ?» Et donc voilà, ça ne s'est pas mal passé. On a pu parler. Et puis, comme je raconte, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui m'interpelle. Et « white man, come ». Et donc, le blanc, voilà, l'homme blanc, viens, on parle. Non, il y a toujours quelqu'un qui est là. Mais au départ, effectivement, c'est quelque chose qui était assez tendu. En fait, en reprenant un petit peu, je me suis aperçu que ce quartier de New Bell était un quartier qui avait été le lieu de formation de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, et quelque chose qu'on voit maintenant, parce qu'un rapport vient de sortir là il y a quelques jours, mais qui était déjà attesté par plusieurs auteurs, plusieurs historiens, mais jamais réellement mis au jour en France en particulier, c'est la violence de la période de la décolonisation au Cameroun, qui n'a pas du tout été une décolonisation pacifique, comme on a voulu le faire croire et comme on veut encore le faire croire, où la France aurait donné l'indépendance à ses colonies. Non, c'est un mouvement qui remontait d'ailleurs très loin, dès les premiers temps de l'arrivée des colons, où il y a eu une résistance importante. Et là, dans les années 50 et 60, avec la première nomination d'Ahidjo, qui était très proche de la France, la résistance à la colonisation a été importante. Et les réponses de l'armée française ont été très violentes. On considère qu'il y a 100 000 morts, c'est très important, 100 000 morts dans les années 50 et début des années 60 au Cameroun, dans les guerres d'indépendance. Donc c'est vraiment une histoire à faire ressortir, et ce rapport de qui a été remis là il y a quelques jours devrait en tout cas y aider. Vous citiez Achille Mbembe tout à l'heure, il a beaucoup contribué à ce que cette histoire commune de la France et du Cameroun soit remise en évidence. Donc ça, c'est une partie importante. Mais du coup, ça m'a ramené en arrière, c'est-à-dire ça m'a ramené plus loin en arrière, et notamment à Louis-Ferdinand Céline, qui a été, avant d'être l'écrivain qu'on connaît avec l'antisémitisme qui est bien connu de Céline, a été un commerçant français à Douala et dans la région forestière, on va dire, dans la région du littoral camerounais, forestière, où il a passé une année en tout, et il a laissé des correspondances, etc., et puis une centaine de pages du voyage au bout de la nuit qui se passe au Cameroun. Et là, effectivement, on a une description de ce qu'a pu être le regard colonial, le regard racial, racisant, je dirais même de classement en bas de l'humanité, des personnes qui étaient là, qui n'entrent absolument jamais dans le roman, évidemment, qui ne sont jamais connus, dont on ne connaît pas le nom. Ce sont des gens dont on ne connaît pas le nom. Ce ne sont pas des sujets de parole. Ce sont des espèces d'ombres qui sont là, qui seraient menaçantes. Alors c'est intéressant parce que le voyage de Céline à Douala, au Cameroun, c'est en 1916, et la période justement des premiers affrontements, alors là, avant, une dizaine d'années avant, avec l'armée allemande et les premières résistances camerounaises contre la colonisation, donc au tout début du XXe siècle, était très violente déjà. Et effectivement, on voit la trace de ça sous des noms de barbares, de sauvages, et avec toute la terminologie raciste de l'époque qui venait naturellement, et donc Céline qui expliquait comment il exploitait les négresses, les négrillons et les porteurs, etc., des centaines de personnes qui lui permettaient d'aller acheter des défenses d'éléphants pour rien, ou de faire toutes sortes de commerces illégal, évidemment, dans la région. Et donc ça c'est la violence de la relation coloniale. Ça m'a semblé intéressant dans le livre de le mentionner, parce que je veux repartir tout en étant allé en Amérique latine, en Europe, etc. Mais quand il est question d'Afrique, dans tous ces enquêtes que je fais actuellement, on me renvoie à l'Afrique. Et donc cette Afrique, j'y suis allé effectivement avant, et donc je peux en parler, mais il y a aussi cette histoire et de la littérature. Je mentionne aussi, parce que ça se passe tout près, le roman de Conrad, de Joseph Conrad, au cœur des ténèbres. Et ben voilà, au cœur des ténèbres, Bon, alors il suffit de penser à Apocalypse Now, qui est le film dont a été tiré en le déplaçant. Bon, Coppola l'a déplacé du côté de la
du
Vietnam, mais voilà, c'est l'horreur et c'est ce que dit le héros du roman, c'est l'horreur. Et là, c'est pareil en fait, parce que Conrad est dans une vue qui est tout à fait opposée à celle de Céline. Il est antiraciste, il est anticolonialiste, il veut montrer l'horreur de ce qu'a été la colonisation. Mais il n'y a pas plus de sujets parmi des autochtones, aucun n'est présent. Mmh. Ce sont toujours des ombres qui sont là, dont on a peur, qui sont mystérieux. Les ténèbres, c'est les ténèbres. Et donc voilà, cette image-là, cette imagerie de l'Afrique, elle a marqué, je pense, elle a marqué profondément les mentalités de toutes ces manières d'appréhender, de regarder ce continent et les populations de ce continent.
Ce que vous appelez donc, Michel Agier, les images vivantes, on continue à en parler. Je rappelle donc le titre de votre livre, Racisme et culture, c'est publié aux éditions du Seuil.
Culture, société, création, en version originale, Patrick Léon Émile.
On devait partir en musique, le temps d'une pause musicale. Est-ce qu'on peut écouter la musique de Delgrès, le temps de reprendre? Parfait. Monsieur le Président, Monsieur le Président en français, c'est le titre de ce morceau de Delgrès qu'on écoute à l'instant Sur Aligre FM, Delgrès, groupe caribéen français fondé en 2016, le nom du groupe est un hommage à Louis Delgrès, né en Martinique en 1766 et qui lutta contre l'esclavage jusqu'à sa mort en 1802. Je suis toujours en compagnie de Michel Agier qui publie aux éditions du Seuil « Racisme et culture ». Michel Agier, l'objet de vos interrogations et vos enquêtes, c'est la transformation, je le disais, de la race par la culture. Je cite « Les apprentissages que se sont forgés celles et ceux qui ont été ou dont les ancêtres ont été affublés, ridiculisés, écartés sous le sobriquet de nègre relèvent, il me semble, dites-vous, de quelques registres que l'enquête ethnographique peut interroger dans les performances noires et afro d'aujourd'hui. La notion de performance pour vous, donc, ce sont donc les fêtes dansées, les chants, les carnavals, les spectacles de théâtre, les contes, les poésies, les écrits publics de toutes sortes. Pour quelles raisons vous vous intéressez donc au processus créatif de ces performances ?
Alors c'est une, position, c'est une réflexion sur l'anthropologie de la culture, l'anthropologie culturelle, si on peut dire. Ce qui est intéressant dans la culture, ça n'est pas pour l'anthropologue l'objet culturel fini à propos duquel on va s'interroger sur sa réception, sur la manière dont les spectateurs vont l'appréhender ou des choses comme ça. C'est, comme je le dis à plusieurs reprises, la culture en train de se faire, c'est-à-dire l'acte lui-même, le cheminement lui-même qui amène des individus, des personnes à avoir besoin d'exprimer quelque chose face à un public et de créer la scène d'une performance, de créer ce moment-là. Hein, je m'intéresse beaucoup aux situations, donc de créer une situation dans laquelle il y a quelque chose qui dépasse ce que l'individu ou un groupe a dans sa tête ou dans sa parole, dans sa première prise de parole, et qui va vers un public, c'est-à-dire vers l'altérité. Aller vers un public, c'est aller vers l'altérité, et donc, d'une façon, partager l'expérience. Partager l'expérience. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le niveau 1, c'est le niveau premier, c'est pas le niveau 0, c'est le niveau premier de la création culturelle, c'est-à-dire celui où des personnes qui au départ peuvent être des amateurs, peuvent être des gens du commun, ressentent le besoin de créer quelque chose. Et ils le créent et ça ne devient pas forcément, mais ça devient finalement une œuvre qui va être vue. Qui va être vue comme une œuvre, par exemple sur une scène de théâtre, répétée régulièrement sur une scène de théâtre, ou une poésie qui va être finalement imprimée, publiée et diffusée comme poésie, mais qui a d'abord été clamée devant d'autres personnes, les personnages de carnaval dont je parle, qui sont inventés, qui sont créés à un moment donné pour dire quelque chose, et puis s'ils ont du succès, si le spectacle fonctionne, si ça marche, si les personnes qui sont là entrent en relation avec la performance, ça va devenir quelque chose comme un spectacle. Et donc voilà, c'est ce moment-là qui m'intéresse, c'est celui de la performance, celui de la performance culturelle. On rapproche ça souvent, mais je ne veux pas le mettre dans une catégorie des arts de la rue, hein, par exemple. Évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas encore parfaitement formalisées, quoi, on va dire. Et de ce point de vue-là, ben, disons que mon expérience, là, pour le coup, c'est aussi mes terrains tels qu'ils se sont déroulés, qui m'ont renvoyé ça, hein, dans une démarche, là, qu'on dit inductive, quoi, ça vient du terrain à la théorie. Mes terrains m'ont renvoyé une expérience où, au Brésil en particulier, les mouvements noirs ont saisi l'espace du carnaval à Bahia pour exprimer quelque chose qui était de l'ordre, d'abord, de l'antiracisme très politique, d'affirmer dans la rue, des pancartes, des mots « alto-racisme » ou bien « black power » ou des choses comme ça, mais aussi de commencer à mettre en scène quelque chose d'autre qui a consisté à dire, et c'est ce que je raconte dans le premier chapitre du livre, des jeunes sont arrivés d'un quartier noir de Salvador et ils ont produit comme première image de leur initiative un pamphlet, une affichette qui disait « Nous sommes les Africains à Baïa ». Alors, ce sont les Africains qui arrivent à Baïa. Comme si c'était, voilà, eh ben nous ne sommes pas vos noirs du racisme brésilien, nous sommes des Africains qui arrivent dans le carnaval et nous allons vous montrer ce que c'est. Et cette initiative-là a tellement pris, elle a tellement plu, pas à tout le monde, ils ont été l'objet d'énormément de polémiques, mais elle a énormément plu, bah, évidemment, à beaucoup de jeunes noirs du quartier dans lequel ils étaient et puis de la ville en général, que c'est devenu leur art, d'une certaine façon. Oui. C'est devenu leur art qui est resté, et ce groupe existe depuis 50 ans. Depuis 50 ans, c'est devenu une véritable institution à Salvador. Ils ont formé une école, ils ont un centre de formation musicale, justement. Ils donnent des concerts un petit peu dans tous les pays. Ils vont donner des représentations, plus exactement, un petit peu dans tous les pays. Mais au départ, c'est la performance. Et c'est ce moment-là de la performance, à travers aussi les poèmes qui sont dits par des poètes noirs qui vont rechercher un petit peu qu'est-ce qu'ils entendent, eux, comment ils parlent, eux, de l'Afrique. Hein, ils vont le dire dans des poèmes. Ou bien des rappeurs ailleurs, ou un autre groupe de carnaval en Guadeloupe, ou d'autres en Colombie, ou bien encore, on va peut-être en reparler, mais le spectacle finalement de Rebecca Chaillon...
Vous le décrivez longuement la livre, je laisse vous éditeurs en train de découvrir ça.
C'est un peu l'épilogue.
Mais ce qui m'intéresse, donc, c'est effectivement ces processus créatifs de prise en charge de soi qui ont, en vous lisant, une vertu réparatrice qui peuvent reconstruire, mais qui peuvent être également une forme de résistance. Mais en quoi donc cette démarche artistique serait plus apte, par exemple, qu'un enseignement de l'histoire pour la reconstruction de soi dans un contexte raciste?
Non, je pense que l'enseignement de l'histoire est évidemment très important, et que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou en France, en Europe, je pense qu'il y a beaucoup à revoir dans l'enseignement de l'histoire sur la part africaine de l'histoire de l'Europe, la part africaine de l'histoire de France. C'est considérable, et c'est vraiment une question très, très importante. Mais en quoi est-ce que c'est important? C'est important dans ce sens.
En quoi est-ce que cette démarche-là est-elle singulière et soit plus féconde dans la reconstruction de soi dans un cadre racisé?
Elle crée, la situation de la performance crée une autre relation. C'est-à-dire que on joue une fiction, on produit une image qui n'est pas la même image, qui n'est pas la même relation que celle qui est dans la société. On crée une autre relation, une autre situation et une autre image réciproque des uns et des autres. Je le donne à propos de ces groupes de carnaval, mais c'est d'une certaine manière, à chaque fois, dans ces groupes, on réimagine, on refabrique un monde, on refabrique un imaginaire, on raconte une histoire. Par exemple, je parle de la Colombie, où il y avait un prêtre qui était métis, mais il attaquait, l'histoire raconte qu'il il agressait les habitants noirs qui jouaient des tambours et qui faisaient la fête, et il leur disait « vous allez être excommuniés », et ils s'en prenaient aux noirs, etc. etc. Et à un moment, il y a un groupe de carnaval qui à un moment où justement, sur le plan politique, dans la petite ville où ça se passe, ce sont les Afro-Colombiens qui obtiennent le secteur culturel de la ville, et ils lancent un nouveau carnaval qui va devenir après maintenant un carnaval africain, hein, c'est devenu ce terme-là qui est utilisé, mais à ce moment-là, ils réinventent l'histoire d'une certaine façon, et on dit que ce curé là qui voulait excommunier les gens était blanc. En fait, il n'était pas tout à fait blanc, il était métis, justement, il était, on ne sait pas trop, mais voilà. Donc il y a un acteur noir qui se met de la peinture blanche pour jouer le curé excommuniateur. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est une invention. Et il y a des gens qui sont là, sur le chemin du défilé, qui sont autour, qui dansent avec, et qui entourent, etc. Et qui donc, d'une certaine façon, font l'expérience d'une autre représentation, d'un autre récit, hein, comme on dit, d'une autre histoire. Et c'est ce qu'on trouve un petit peu en général dans tous les contextes de la performance, c'est-à-dire c'est le moment ou la situation dans laquelle des gens qui sont dans une position de spectateur à un moment donné ou de participant autour de celle ou celui ou ceux qui font la performance entrent dans une autre relation, produisent une autre image des uns et des autres.
Vous écoutez Allègre FM 93.1.
Toujours en compagnie de Michel Agier, qui publie « Racisme et culture » aux éditions du Seuil. Michel Agier, donc, alors est-ce que ça, cette démarche-là, ce processus donc de performance à l'échelle individuelle, est-ce qu'elle peut amener à ce qu'on appelle une pensée décoloniale ? Pour vous, qu'est-ce qu'une pensée décoloniale ? Est-ce possible d'ailleurs une pensée décoloniale ?
Je pense, alors, en dehors de toutes les polémiques, moi, je n'accroche pas du tout à toutes les polémiques qu'il y a sur les termes, sur les concepts. Je pense que le terme de racisé, il est fondé. J'explique largement dans mon texte comment, effectivement, quand je dis que le racisme produit la race, même
une
si
précision,
les races...
Michel, vous êtes contre toute euphémisation, les termes sont clairs avec vous.
Les termes sont clairs, ouais, voilà, les termes sont clairs, mais je les explique à chaque fois. Et donc, il y a une volonté aussi... De clarification sur ces sujets-là. Et donc, tout ça, pour moi, ne fait pas l'objet de polémiques. Et donc, je suis tout à fait disposé à échanger avec toutes les personnes qui veulent discuter de ça. Mais je pense qu'il y a effectivement... Il y a une fonction dans ces performances culturelles et même, je dirais, dans... un antiracisme à travers ces performances culturelles, parce que pour moi c'est important, ça, cette dimension-là. Ces performances culturelles sont une forme de l'antiracisme. Et donc elles sont aussi, ces performances culturelles, elles sont aussi des formes d'émancipation, d'une certaine façon, de retournement, d'émancipation, pour créer un petit peu dans l'esprit fanonien, quoi, de ce que Fanon pouvait écrire en disant il faut aussi se libérer de cette momification culturelle que le colon voulait imposer aux colonisés. Il faut se libérer de ça et avoir un travail, une conscience, voilà, un travail sur soi qui vient de cette conscience d'être dans cette condition noire, cette condition coloniale ou postcoloniale ou condition noire. Et ce travail, à partir de la conscience, peut produire quelque chose qui est de l'ordre de l'émancipation individuelle et collective, évidemment. Mais je pense que là, le chemin, il est en même temps individuel et collectif. Donc le décolonial, pour moi, c'est cette démarche-là. C'est un décolonial. Évidemment, on peut toujours... La décolonisation a existé sur le plan politique. Bon, elle est discutée et largement discutée sur le plan économique. On voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest en ce moment où ce sujet revient, évidemment. On considère que la décolonisation n'a pas été... complètement abouti, et je pense que c'est exact. La décolonisation n'est pas complètement aboutie sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la maîtrise des sols, par exemple, la maîtrise des territoires, etc. etc. Mais ce genre de... Et l'attention que j'ai eue sur ses pratiques culturelles et ses performances culturelles, veut mettre précisément en évidence quels sont des lieux de subjectivation, d'émancipation, qui se permettent de décoloniser les esprits aussi, comme on dit, décoloniser complètement les esprits, pour arriver, non pas à se rejeter réciproquement, je ne pense pas que ce soit ça le but final de qui que ce soit d'ailleurs, mais à se regarder sur un plan d'égalité. Et la question de l'égalité, elle est très importante, bien sûr, sur le plan social, sur le plan économique, mais elle est importante sur le plan culturel aussi. La question de l'égalité, elle est très importante sur le plan culturel, de se regarder en égalité. Égalité de temps de parole, égalité d'espace de parole. Et ça, je pense qu'il y a une demande très forte, et à mon sens, elle est parfaitement légitime. Et il faut l'entendre sur le plan politique, sur le plan des médias, etc. Il y a une demande tout à fait légitime de faire entendre une parole, une conscience de soi qui n'est pas ce qui est le discours encore imposé aujourd'hui sur ce que sont les minorités, ce que sont les étrangers, etc., etc. C'est un renversement aussi qu'il faut faire de ce point de vue-là, une égalité aussi dans la culture.
Et justement, ce que j'évoquais avec vous au début, c'est ce qu'on appelle donc ces crispations, c'est la montée des extrêmes. Ce que vous proposez là, est-ce que il y a des forces beaucoup plus fortes qui peuvent les contrer? Est-ce que pour ça vous semble malgré tout alors c'est une forme, c'est pas un optimiste faites une proposition effectivement. Alors comment faire avec cette conjoncture, ce contexte très changeant qui va vers des extrêmes, vers des sociétés de plus en plus dures, me semble-t-il?
Alors, comme on se disait, il y a un durcissement politique, il y a des crispations identitaires qui sont essentiellement du côté de ceux qui se rendent compte justement qu'il y a une demande d'égalité. Notamment, bien sûr, sur le plan social, économique, elle est très importante, mais il y a aussi une demande d'égalité sur le plan culturel, sur le plan de qui sommes-nous. Quand on voit maintenant ce qui vient d'être inventé ces derniers jours, on veut ramener le débat, le soi-disant débat public sur qu'est-ce qu'être français, par exemple, qu'est-ce que l'identité nationale. On revient éternellement, comme l'avait fait Sarkozy en 2007. Ça s'est terminé, ça s'est très mal terminé pour eux en 2009-2010 avec la suppression du ministère de l'Identité nationale que j'avais demandé avec des collègues, où on avait lancé des appels avec 40 000 signataires pour demander la suppression du ministère de l'Identité nationale, qui était une espèce de folie, de crispation identitaire. On voit que ça revient. Et ça revient pourquoi ? Ça revient parce que précisément, la droite a une pensée du monde qui est naturaliste. C'est-à-dire, ce qu'on voit là, c'est un ordre naturel du monde. Ça ne doit pas changer. Et le racisme prend sa source dans cette idée-là. Le racisme, en tant que naturalisation de la domination, ne veut surtout pas que ça change. Cette invention, on va dire, au milieu du 19e siècle, quand Gobineau, etc., a inventé la hiérarchie des races, c'était pour dire qu'il y a un ordre naturel qui correspond à l'ordre politique, social, économique du monde. Et pure invention, évidemment, tout le monde le reconnaît maintenant, mais on revient à cette idée-là. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas changer, l'ordre naturel du monde. Et comme c'est une erreur, comme l'ordre du monde n'est pas un ordre naturel, c'est un ordre politique, culturel, social, eh bien, les gens bougent, les gens changent. Il y a des compétitions sur le marché du travail, il y a une volonté de sortir des différents processus de ghettoisation qui ont lieu un peu partout et qui touchent toujours les personnes qui viennent des histoires coloniales et postcoloniales. Et donc, cette histoire-là, elle est contestée. Il y a des gens qui veulent jouer à jeu égal et ceux qui sont dans la position de défendre les positions établies, rejoue la fiction d'une naturalisation de cette domination. Et c'est un conflit. C'est un conflit, et je pense qu'il faut l'appréhender comme un conflit, comme des controverses, comme des débats. Et je pense que non, il ne faut pas céder à cette pression-là, parce que justement, le monde change, le monde a changé, et il faut aussi que la politique s'adapte à ce changement. Je sais qu'on en est loin, mais je pense que ce qui se passe dans le monde actuellement, toutes ces réactions dans le monde, sont des réactions qui veulent empêcher cette transformation, le fait de gagner un peu en égalité dans le partage du monde. Eh bien, voilà, c'est un conflit.
Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire parler, Michel Agier, d'une œuvre d'art, donc qui sont les quatre captifs de Michel-Ange. Vous en parlez au début du livre. Hein. C'est donc, vous êtes à Florence, dans la galerie de l'Académie, et donc c'est une longue salle dédiée aux sculptures de Michel-Ange, dont l'imposante statue de David. Et là, c'est là que vous remarquez, vous admirez donc les quatre captifs de Michel-Ange, sculptés dans la pierre, dont ils sont en train de s'extraire pour former leur corps.
Ils sont sur les bords, c'est ce que je dis. Voilà, ils sont sur les bords, on les voit presque pas.
Presque pas.
Toute la salle est organisée pour voir le David, cette blancheur magnifique, cet homme de 5 mètres de haut. Et sur les côtés, il y a ces quatre captifs qui sortent de la pierre. Et j'ai eu le sentiment que c'était comme l'effort. De se créer soi-même dans la contrainte, quoi, de s'extraire de la prison d'origine. Quoi.
L'œuvre d'art, l'iconographie peut être ça a une force aussi de connaissance, une incitation à savoir.
Absolument. Oui,
très bien. Merci beaucoup, Michel Agier. Je rappelle le titre de votre livre, Racisme et culture, exploration transnationale. C'est aux éditions du Seuil. Merci infiniment.
Merci à vous.
Notre émission se termine. Je remercie Damien Gissa et Armand Guéry qui étaient à la technique ce soir. Dans un instant, vous retrouvez Dancehall Reggae Vibes et je vous retrouve samedi prochain à 19h sur Aligre FM 93.1 pour Version Originale. Bon week-end, bonne semaine, à samedi prochain.
Version Originale, Patrick, Léon Émile. Yeah.
Cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. But they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster send us the corner hugger. Seeing this nigga shining and knowing me like a motherfucker. This buster owe me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got my tan. You bought 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. People's dilated like silver dollars, now we loki. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? For sure. Yeah. Rollin', pockets all swollen. Set the record straight to that FNH is what I'm holding. The buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came back down it up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Chefing up the crack, the heroin, the weed, out the car. I call it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary go see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What?
got the heart to die for some flesh to flesh. The Lambo powder outside, it's a stretch. My bitch half Mexican, Afghan, I'm blessed. From living tough times with rough levers, a gorgeous watch. A team on a dreadful level, yo. Yeah, we still getting money right. Long as the sun come out, I hold his money sight. Getting fresh, just cooling my bitch on my dick. But boo, yo, you live with your moms, just get a grip. Clip in my pocket, a rocket. I think of the dips, I need jewels and gems with rough flicks. Trips to Africa, shorty tear sex up. I'm out in Bombay, rebels here acting up. We real OG, 7,500 of us. Up in the Sprinter bus, fussing, we need more heat.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.